Les Mormons possèdent des temples avec des pièces secrètes plus ou moins sacrées où seuls certains privilégiés peuvent entrer. Cette religion à mystère s'inspire du temple juif qui se trouvait à Jérusalem et qui comportait un lieu saint et un très saint qui était séparé par un épais rideau. Lorsqu'ils étaient de service, les prêtres pouvaient aller dans le lieu saint, mais seul le grand prêtre avait le droit d'accéder au lieu très saint, et cela une seule fois par an. Je continue à lire dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux. Là, dans le lieu très saint, était placé un brûle-parfum en or et le coffre de l'Alliance entièrement plaqué d'or. Ce coffre contenait un vase d'or avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'Alliance. Au-dessus du coffre, les chérubins glorieux couvraient le propitiatoire de l'ombre de leurs ailes. Mais ce n'est pas le moment de parler de chacun de ces objets en détail. Versets 4 et 5. Ce coffre sacré contenait un pot rempli d'environ 4 litres de manne, cette espèce de gaufrette mielleuse dont l'Éternel a nourri Israël dans le désert. Puis il y avait les 2 tablettes sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements et enfin le bâton d'Aaron. Ces objets représentent tous 3 un aspect de Jésus-Christ. Le bâton d'Aaron était sec comme un coup de trique, puis la vie est entrée en lui et il a fleuri et même produit des amandes mûres. Cette renaissance soudaine symbolise la résurrection du Christ. La manne tombait comme ça toute seule tous les matins 6 jours par semaine. Elle rappelle les 2 multiplications des pains miraculeuses opérées par Jésus. Selon le Nouveau Testament, cette manne annonçait aussi le pain du ciel à venir, c'est-à-dire le Christ lui-même qui descendit sur terre pour donner sa vie en sacrifice pour les pécheurs. Je lis le passage. « Le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Tout comme les aliments permettent au corps de subsister, Jésus est le pain vivant qui satisfait les besoins les plus profonds de l'âme et donne la vie éternelle à ceux qui croient. Quant aux tables de la loi, elles représentent les 2 volets du ministère du Christ. Premièrement, au nom de tous les croyants de tous les temps, Jésus a parfaitement rempli toutes les exigences de la loi et en second lieu, il en a subi la malédiction en portant le châtiment réservé à ceux qui, comme moi, l'ont transgressé. Je lis un passage. Il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Je continue le texte. Cet ensemble étant ainsi installé, les prêtres entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour accomplir leur service. Verset 6. Dans le lieu saint du sanctuaire, chaque jour les prêtres de l'ancienne alliance s'affairaient. Ils devaient couper les mèches des bougies, ajouter de l'huile au chandelier et de l'encens sur l'autel des parfums. Tous les sabbats, il leur fallait également remplacer les 12 pains offerts à Dieu. Leur travail n'était jamais terminé, mais si certains considéraient leur tâche comme un boulot, d'autres la faisaient par dévotion pour Dieu. Or, celui qui a le cœur bien disposé envers lui, qui le vénère, désire aussi le servir. Alors qu'il était tenté dans le désert, Jésus a dit au diable, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Adorer et servir vont de pair. Ceux qui aiment et adorent Dieu n'ont aucune difficulté à se consacrer à lui pour faire sa volonté. Le travail de fourmi des prêtres lévitiques fait penser à Jésus qui, lui non plus, ne cesse jamais d'intercéder pour les siens auprès du Père. Son ministère ne s'arrête pas. Je continue. Dans la seconde partie du tabernacle, le grand prêtre est le seul à pénétrer, et cela une seule fois par an. Or, il ne peut y entrer sans apporter le sang d'un sacrifice, qu'il offre pour lui-même et pour les fautes que le peuple a commises par ignorance. Verset 7. C'est la tâche particulière du grand prêtre dans le lieu très saint qui illustre le mieux l'œuvre que Jésus allait réaliser sur la croix. Sous l'Ancienne Alliance, on offrait continuellement des sacrifices pour des péchés spécifiques. Cependant, bien des fautes étaient inconnues ou oubliées, pour lesquelles aucun sacrifice n'avait été offert à l'Éternel, et au fil du temps, elles s'accumulaient. Alors, une fois l'an, il fallait vider l'abcès. Le grand jour des expiations, on offrait un sacrifice pour tous les péchés qui n'avaient pas encore été couverts par du sang. L'ardoise des Israélites était alors entièrement effacée, du moins en apparence, car ce sacrifice était seulement symbolique et valable pour une année. C'était un pis-aller en attendant la venue de l'agneau de Dieu qui lui effacerait véritablement tous les péchés de tous les hommes, une fois pour toutes et à tout jamais. Tôt le matin, le jour des expiations, le grand prêtre se purifiait de manière rituelle, revêtait le pectoral et l'éphod, puis il offrait les sacrifices du jour. Ensuite, il retirait ses vêtements sacrés et se lavait entièrement. Il revêtait alors une tunique de lin de couleur blanche et accomplissait le sacrifice d'expiation. Ce faisant, il représentait vraiment Jésus qui s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir habiter humblement parmi nous. Habillé de vêtements de lin blanc et recouvert d'une tunique, le grand prêtre prenait des charbons sur l'autel des holocaustes, les plaçait dans un encensoir d'or avec de l'encens et portait le tout dans le lieu très saint. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, cette cérémonie annonçait l'intercession de Jésus pour les siens. Ensuite, le grand prêtre sortait, prenait un taureau qu'il offrait pour ses propres péchés. Il récupérait une partie du sang et allait de nouveau dans le lieu très saint pour asperger le propitiatoire. On pouvait entendre tinter les clochettes de sa tunique pendant qu'il se déplaçait. Dès qu'il avait fini, il s'empressait de sortir. Il se rendait alors à l'autel des holocaustes où deux boucs étaient attachés. Il tirait au sort celui qui allait être sacrifié, tandis que l'autre, appelé bouc émissaire, serait éventuellement relâché dans le désert. Le grand prêtre égorgeait alors le bouc, recueillait une partie de son sang, comme pour le taureau précédent, et le portait dans le lieu très saint où, une fois encore, il aspergeait le propitiatoire, mais cette fois-ci c'était pour les péchés du peuple. Puis le grand prêtre sortait en toute hâte de peur de s'attarder et d'être frappé de mort. Selon la tradition, il portait une chaîne autour d'un pied au cas où, s'il commettait une imprudence et était terrassé, on puisse le retirer du lieu très saint sans y entrer. Le grand prêtre allait ensuite auprès du bouc émissaire et posait ses mains sur lui. Ce faisant, il plaçait symboliquement les péchés du peuple sur sa tête. Puis on conduisait ce bouc à la limite du désert et on le relâchait dans le but qu'il disparaisse et ne revienne jamais. Le bouc sacrifié était propitiatoire, c'est-à-dire qu'il satisfaisait la justice de Dieu parce que les péchés avaient été expiés. L'autre bouc éloignait les péchés du peuple, ce qui symbolisait le pardon, mais il était temporaire. Je continue le texte. Le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste le premier tabernacle. Nous avons là une représentation symbolique des réalités de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. En effet, il n'y a là que des prescriptions concernant des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Ces rites d'ordre matériel ne devaient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. Versets 8 à 10. Sous l'Ancien Régime, l'adoration de Dieu était très cadrée parce que le commun des mortels ne pouvait pas s'approcher de lui, à l'exception du grand prêtre, mais c'était une fois l'an, bref et très ritualisé. Quant aux Israélites ordinaires, qui étaient pourtant le peuple de l'Alliance, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le lieu saint du tabernacle et encore moins dans le lieu très saint. Les païens, eux, ne pouvaient même pas pénétrer dans le parvis, la cour du tabernacle. Quand un Israélite amenait un agneau, il entrait dans le parvis où il rencontrait un prêtre. Tous deux allaient jusqu'à l'autel des holocaustes qui était situé à l'entrée du tabernacle. L'homme posait alors ses mains sur la tête de l'animal pour s'identifier à lui et symboliquement placer sa faute sur l'agneau. Puis le prêtre l'égorgeait avant de le dépecer ou de le brûler selon les cas. L'Israélite ne pouvait rien faire d'autre que rentrer chez lui et espérer que l'Éternel acceptait son offrande. Ces rituels montraient bien que sans un grand prêtre sauveur et un sacrifice parfait, il n'était pas possible d'entrer dans la présence de Dieu. Non seulement Dieu était inaccessible, mais les sacrifices d'animaux comportaient de sérieuses limitations. Ils pouvaient purifier la souillure cérémonielle et couvrir certains péchés commis sans mauvaise intention. C'est tout. De plus, il fallait se soumettre à des rites complexes et contraignants. Les sacrifices et le bouc émissaire protégeaient l'Israélite de la colère de Dieu, mais n'établissaient pas une relation amicale avec lui. Il faut bien garder à l'esprit que les rites de l'Ancien Testament avaient surtout valeur de symbole et n'avaient pas été donnés pour effacer le péché, parce qu'il est ineffaçable, sauf par le sang de Dieu lui-même, en Jésus-Christ. Les pratiques religieuses de l'Ancienne Alliance pourvoyaient à une purification rituelle extérieure. Elles servaient à couvrir les péchés et permettaient d'éviter le jugement, mais les fautes restaient et pesaient sur la conscience du coupable. Le système lévitique mis en place par Dieu ne réglait pas le problème fondamental de l'homme. Pour cette raison, l'Ancienne Alliance était imparfaite et temporaire jusqu'à ce que la perfection vienne en Jésus qui, lui, a réellement ôté le péché, supprimé toutes ses conséquences pour l'éternité, ouvert toute grande la porte d'accès à Dieu et pourvu au salut éternel pour ceux qui lui font confiance. La loi et toutes ses exigences cérémonielles furent une façon pour Dieu d'administrer l'humanité pendant un temps. Elles furent données à un peuple particulier plusieurs milliers d'années après la création et la rébellion de l'homme et se sont terminées voilà déjà 2000 ans au moment de la mort du Christ en croix. D'ailleurs, l'auteur précise que ces rites d'ordre matériel ne devait rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau, littéralement jusqu'à une époque de réformation. Le mot pour réformation signifie rendre droit, redresser, corriger. C'est l'instauration de la nouvelle alliance conclue par le sang versé du Christ qui a permis de satisfaire la justice de Dieu et laver l'affront qui lui était fait par les péchés des hommes. C'est le Christ qui a déchiré le voile qui séparait l'homme de Dieu et qui a permis d'établir un pont entre le Créateur et ses créatures. Hormis Jésus, il n'y a pas de réconciliation possible avec Dieu, donc pas de salut. Aujourd'hui, la voie est libre et tous ceux qui font confiance à Jésus ont l'entière liberté de s'approcher de Dieu et de l'invoquer pour n'importe quelle raison, car il est leur Père. Demander, c'est bien, mais dans l'une de ses épîtres, l'apôtre Paul rappelle aussi aux croyants qui sont appelés à louer et adorer leur Seigneur. Il les exhorte disant « Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » On peut résumer les caractéristiques de l'Ancienne Alliance de la manière suivante. Son sanctuaire est terrestre, fait de main d'homme avec du bois, des peaux et plus tard avec des pierres. C'était une image, une représentation symbolique des réalités célestes, mais pas la vraie réalité. il était inaccessible au commun des mortels et même aux prêtres. Aujourd'hui, par contre, chaque croyant est comme un grand prêtre le jour des expiations parce qu'il jouit d'un accès permanent auprès de Dieu grâce au sacrifice du Christ qui a déjà eu lieu et reste valable pour l'éternité. Quand Jésus est mort, le voile qui barrait le lieu très saint s'est déchiré, signifiant par là que Dieu était désormais accessible. Enfin, le système lévitique de l'Ancienne Alliance ne pouvait jamais changer le cœur de l'homme et n'avait pas été donné dans ce but. Par contraste, l'action du Saint-Esprit opère une transformation intérieure profonde chez celui qui place toute sa confiance en Jésus. Le croyant est une nouvelle création, transformée de la tête aux pieds dans un sens moral et spirituel. Je continue le texte. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre, un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Verset 11. L'auteur va rappeler plusieurs caractéristiques importantes de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne. Puis il va brièvement décrire le nouveau sanctuaire, le service qui y est effectué et ce qu'il signifie. En tant que grand prêtre céleste, Jésus exerce dans un tabernacle spirituel qui est incomparable car parfait et infiniment plus majestueux que le sanctuaire terrestre fait de main avec des matériaux naturels. Le tabernacle en peau d'animaux était beau et le temple de Salomon impressionnant, mais tout ce qui est matériel se dégrade et finit par disparaître. Il faut sans cesse réparer et rafistoler. Par contre, le sanctuaire céleste n'a pas été érigé par des hommes. Il est spirituel et se trouve dans les cieux, là où Dieu réside. Étienne, le premier martyr de l'Église, a rappelé à ses contemporains « Le Dieu Très-Haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit le prophète. Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez ?» dit le Seigneur. Ou quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Et l'apôtre Paul a dit aux Athéniens, « Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. » Fin de citation. À l'image de Melchisédek, Jésus est un grand prêtre roi qui assure son sacerdoce et son règne au même endroit dans son palais, qui est aussi le sanctuaire céleste à la droite de Dieu dans la salle du trône. Sous l'Ancienne Alliance, les prêtres entraient seuls dans le lieu saint et le grand prêtre pénétrait seul dans le lieu très saint. Mais sous la Nouvelle Alliance, Jésus fait entrer tous les siens à sa suite à l'intérieur du sanctuaire céleste dans la présence de Dieu jusqu'à les faire asseoir avec lui. L'apôtre Paul écrit « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. » Fin de citation. Spirituellement, les croyants sont déjà dans les cieux, mais un jour, ils y seront en vérité et en esprit et avec un nouveau corps ressuscité et pour l'éternité. L'apôtre Paul écrit encore « Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. » Je continue le texte. Le Christ a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Verset 12. Sous l'ancienne alliance, le grand prêtre en fonction entrait année après année dans la présence de Dieu et offrait du sang d'un animal qui couvrait certains péchés pendant un temps. C'était du provisoire, répétitif et très imparfait. Par contraste, Jésus est allé une seule fois devant Dieu avec son propre sang et il a obtenu une rédemption permanente pour tous les croyants de tous les temps et il n'y a pas de limite au nombre d'êtres humains qui peuvent recevoir la vie éternelle. Il faut aussi remarquer que c'est le sang que le Christ a versé qui procure le salut et non pas la vie parfaite qu'il a menée. C'est sa mort qui sauve. Par un seul acte de rédemption, il a expié les péchés passés, présents et futurs. Je continue le texte. Si le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure, à combien plus forte raison le sang du Christ qui, sous la conduite de l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant? Versets 13 et 14. L'auteur rappelle aux Hébreux que toutes les pratiques de l'Ancien Testament sont désormais caduques. En effet, le système lévitique purifiait seulement l'extérieur. C'était des actions symboliques qui procuraient la pureté rituelle et qui couvraient le péché que l'auteur appelle les œuvres mortes, mais qui ne l'effaçaient pas. De toute façon, ce n'est pas une cérémonie qui peut changer le cœur de l'homme. Par contre, Jésus étant un être divin et parfait, son sang a une valeur infinie. Appliqué par le Saint-Esprit, il accomplit véritablement l'expiation de toutes les fautes. De plus, il atteint le cœur humain où est enraciné le péché. Par cette action en profondeur, le sang de Jésus purifie vraiment le pécheur et ses fautes sont réellement pardonnées et oubliées par Dieu. Le Saint-Esprit ne se contente pas de rafistoler une vieille créature délabrée, mais en crée une nouvelle qui est à l'image du Christ. Les Hébreux qui abandonnent les vieilles pratiques lévitiques pour se confier en Jésus peuvent donc avoir la conscience tranquille. Un évangéliste qui organisait des réunions sous une tente était en train de la démonter quand un jeune homme s'est approché et lui a demandé « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?»« Désolé, » a répondu l'évangéliste, « il est trop tard. » « Oh non, vous voulez dire qu'il est trop tard parce que la réunion est terminée ?»« Non, » dit l'évangéliste, « je veux dire qu'il est trop tard parce que c'est déjà fait. Tout ce qu'on pouvait faire pour votre salut a déjà été fait. » Et en effet, le salut repose sur l'œuvre rédemptrice déjà accomplie par le Christ qui s'est offert une fois pour toutes, une œuvre complète, parfaite et éternelle.